Nous parlons de l'humanitaire ce matin, des ONG, de ceux qui partent sur place pour aider les autres. Comment le vivent-ils? Et surtout, qui s'occupe d'eux sur place et bien sûr pour le retour? Alors, le docteur Bartold Behrens-Dehaene est avec nous. Je vous rappelle que, mis à part être psychiatre, psychothérapeute, chirurgien de guerre, aider les autres, il vient de sortir un livre, Sauveteur de l'impossible, un engagement à haut risque. C'est paru aux éditions Belin, toujours avec nous ce matin, Eric Guézot et Christophe Kokelberg. Alors, je voudrais qu'on dise un mot, puisqu'on revient dans l'Hexagone, Bartold, un mot sur ceux qu'on connaît. Alors, il y en a qu'on connaît très très bien. La France a une admiration pour les pompiers, hein, et on le voit, ce sont des gens extrêmement populaires. Les pompiers, eux aussi, prennent des risques. Les pompiers savent aider les autres, hein, savent parler aux gens. Même s'il y a eu un accident, ils ne viennent pas que pour le feu. Hein. Et des fois, on fait appel aux pompiers parce qu'on a eu un petit accident domestique. Ils savent nous encadrer. Ceux qu'on connaît un peu moins, parce que même s'il y a beaucoup de côtes en France, ce sont les sauveteurs en mer et puis les sauveteurs de haute montagne. Alors, eux aussi ont des points communs, hein, j'allais dire, avec Eric et Christophe ce matin. Eux aussi sont confrontés au stress, à l'angoisse, à aider les autres. Et dans une, j'allais dire, de sauveteur en montagne, il y a un laps de temps qui est très court si on veut retrouver la personne vivante. Et vous l'évoquez quand même dans votre livre, ce sont des gens qui ont aussi à annoncer des choses très désagréables, comme un décès.
C'est ça, oui.
Il faut qu'ils soient préparés à tout ça.
C'est ça. Je souhaitais équilibrer un tout petit peu cette admiration, à juste que vous, dont vous avez beaucoup parlé pour les humanitaires, sur les autres sauveteurs qui travaillent en France, qui méritent aussi beaucoup de respect, d'admiration, et voir si de leur côté ils avaient les mêmes problèmes que les humanitaires. Ce qui s'est avéré vrai, ils ont les mêmes types de stress, seulement, il faut le dire, leur encadrement professionnel, leur encadrement pour les pompiers, souvent de militaires, pour les sauveteurs en montagne aussi, de la gendarmerie nationale, leur permet de mieux résister au stress dans la mesure où ils ont un soutien dans leur équipe qui est plus efficace, reconnaissons-le, plus efficace que celui qu'offrent les humanitaires.
Alors, il y a autre chose aussi, c'est que il y a la famille, il y a les amis, ils sont sur place.
Oui, ils n'ont pas le statut d'expatrié, vous avez tout à fait raison. Et comme on l'a montré, qu'un des gros stress, c'est l'expatriation, et comme vous dites, cet aspect-là ne leur pèse pas sur leurs épaules. Mais notre projet dans l'humanitaire, c'était, si vous voulez, de former, de donner des moyens au cadre humanitaire, de reconnaître le stress de leur personnel et de mettre en œuvre les premières mesures de soutien.
Oui. Voilà. Alors, Eric a fait quelque chose de formidable quand il est rentré, parce qu'il a dû passer par là avant de créer Résonance Humanitaire. J'ai envie de dire que c'est la première fois qu'on fait de l'humanitaire jusqu'au bout. Hein, on part, on s'expatrie, on est sur place, on aide les autres, ça c'est l'humanitaire qu'on connaît. Quand on revient, on est totalement décalé. N'ayez plus peur de partir, puisque grâce à des gens comme vous, on fait de l'humanitaire jusqu'au bout. Quand vous allez rentrer dans notre pays, en tous les cas, je souhaite qu'il y ait un modèle qu'on vous copie dans beaucoup de pays européens ou à travers le monde, vous serez encore pris en charge. Et pas pris en charge, j'allais dire, par quelqu'un qui ne s'y connaît pas, puisque vous retrouverez des gens qui ont été sur place. Alors, comment vous est venue l'idée? C'est parce que vous avez beaucoup souffert de votre tour, Eric?
Parfois, j'ai souffert. Tant qu'on est dans l'action et dans la mission, qu'on se sent appelé par les ONG, on ne pense pas au retour. Ou quand on rentre, on profite des bonnes choses de son pays, on retrouve ses amis avec plaisir, etc. Quand on a une bonne oreille, on en profite, on partage son expérience. Mais c'est le jour où vous envisagez de vous stabiliser, de voir plus loin d'un point de vue professionnel, là, les choses se compliquent. Et donc, on est à plusieurs anciens volontaires humanitaires à s'être dit, il manque, comme disait Bartold, dans les ONG ne sont pas institutionnalisées, donc il n'y a pas un encadrement et un suivi systématique, comme c'est le cas pour les pompiers, les militaires, etc. Donc on s'est dit, si effectivement l'humanitaire doit rester, doit garder cette spontanéité, cette richesse d'engagement qui est très, très variée, et on s'est dit, à ce moment-là, c'est important pour faire le suivi, pour éviter que les gens se... Il faut créer un réseau particulier, à la fois pour accueillir les gens autour, et puis pour les aider à rebondir.
Alors, il y a beaucoup de choses hein, qui sont proposées. L'objectif, hein, vous le dites bien, c'est valoriser les expériences et les compétences développées dans le secteur de la solidarité internationale. C'est un réseau d'entraide, il y a des bilans de compétences, c'est un relais pour l'emploi et une plateforme de témoignages. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit, Christophe, dans ce qu'a fait Eric dans Résonance Humanitaire. Vous nous avez dit, moi j'ai été vraiment touché par ça et j'en avais besoin. Qu'est-ce qui était le plus important pour vous ?
La démarche globale. J'aurais aimé croiser le chemin de Résonance Humanitaire après la crise que j'ai vécue en Irak dont je vous ai parlé plus tôt. Ma réaction à moi, ça a été de me ruer dans un bilan de compétences, donc d'avoir une démarche de reclassement professionnel stricto sensu. C'était une erreur, en fait, de découpler cette quête du reste, en fait, du fondamental, du traumatisme que j'avais vécu, de pouvoir en parler avec des gens qui me comprenaient, parce qu'ils avaient vécu aussi des missions sur le terrain, donc ils connaissaient la précarité, l'aventure, enfin tout ce qui fait le quotidien des missions à l'étranger. Donc j'aurais aimé prendre du recul en discutant de ça avec des gens qui pouvaient me comprendre et à mon rythme aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure du dispositif professionnel hein, qui m'a accueilli à mon retour à Genève. Rien à dire là-dessus. Mais c'est sûr que j'étais un petit peu bousculé par un timing qui à l'intérieur ne me convenait pas, alors qu'avec Résonance Humanitaire, maintenant je prends tout mon temps, si vous voulez, pour décanter tout ça et puis pour aider les autres à décanter ça, même quand c'est pas aussi dramatique que ce que j'ai vécu, parce que ça reste quand même heureusement assez exceptionnel.
Oui. Alors, il y a un site internet, hein, bien sûr, www.résonance au pluriel, tout attaché, résonance humanitaire, tout au pluriel, .org. Vous êtes dans le 15e, hein, à Paris, oui. Vous êtes nos voisins. Je donne un numéro de téléphone également, oui. C'est important, 01 45 75 03 23. Est-ce que vous avez des regrets, Eric ?
Non, au contraire, j'ai gardé tous les bons souvenirs. Et des envies, oui, j'ai toujours cette envie de mener des actions solidaires. Alors peut-être c'est vrai, quand on est jeune, on n'a pas forcément besoin d'un ancrage et on est dans la découverte. Mais plus vous avancez dans la vie et plus vous avez une envie de construire, et de construire pas uniquement pour vous-même mais pour les autres, pour votre famille ou pour vos amis, pour les gens qui vous entourent.
Donc, je trouve que tous les deux, vous êtes deux témoins ce matin, hein. Vous en sortez quand même vraiment assez bien. Bartol, il y a des gens qui s'en remettent pas, qui ont du mal.
Naturellement, il y a des gens
tellement
qui s'en
remettent
pas.
Tellement il y a eu un décalage, tellement ils ont vu des choses,
Naturellement, moi j'ai un témoignage, par exemple, de collègues qui ont fait cette formation avec moi au CIC en 1990, et lorsque je les revois donnant des témoignages, ou que je les revois me parler, je découvre des personnes qui ne sont plus les mêmes. Non, mais plus les mêmes, c'est évident qu'on est transformé par de telles missions, mais malheureusement, qui sont porteurs d'un chagrin et d'un poids qu'on aurait bien voulu dont on aurait bien voulu les protéger. Et c'est pour moi une remise en question permanente lorsque je vois la transformation que le travail humanitaire peut faire sur des personnes qui n'ont pas été adéquatement soutenues, de voir comme leur vie va en être profondément transformée. Moi je dirais que, pour compléter juste ce qu'a dit Eric et si vous me permettez Eric et Christophe, la responsabilité, malgré tout, de l'aide au retour revient aux agences humanitaires qui envoient les gens sur le terrain. C'est formidable qu'il y ait une agence comme une association comme Résonance Humanitaire, mais n'oublions pas que c'est MSF, CICR, Croix-Rouge Française et toutes les autres agences qui sont responsables d'aider leur personnel à revenir dans la société française. Qu'ils délèguent à d'autres, je veux bien, mais la responsabilité doit être portée par l'employeur qui prend en charge ces personnes et qui décident de les envoyer dans les endroits difficiles de la planète. Mmh. L'autre chose qui a été très bien soulignée, c'est que...
Parlez bien dans votre micro, Barton, oui. Sinon on vous entend plus.
C'est que ce qui est essentiel aussi, c'est ce partage, le partage au retour, et enfin bon, c'était ça que je voulais dire, le partage au retour et la responsabilité des organisations.
Mmh. Vous nous avez ouvert certaines portes ce matin où on voit que rien n'est facile, mais il y a un engagement, on l'a compris, pour l'autre, pour soi aussi, et puis le retour peut être quelquefois pas désastreux, mais difficile. Il faut aider ces gens qu'on admire, on dit ils vont aider les autres, mais eux aussi ont besoin des autres. C'est ce qu'on voulait vous faire passer comme message ce matin, je vous rappelle, Sauveteur de l'impossible, votre livre, hein, Bartold Berendsdehan, avec cet engagement à haut risque, paru aux éditions Belin, et puis également Résonance humanitaire, dont vous avez maintenant toutes les coordonnées. Et n'hésitez pas, ça veut dire que si vous désirez vous engager, vous savez que ensuite, quand vous serez de retour, on prendra soin de vous. Merci messieurs, de ce que vous avez fait, de ce que vous faites encore. C'est pas exclu que vous repartiez pas un jour ou l'autre quand même. Christophe ?
Disons que moi quand même, je suis revenu
accidenté.
Après un accident, donc il faut donner du temps au temps là.
Il faut donner du temps au temps. Eric, peut-être ?
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas ?
Et c'est vrai que maintenant c'est peut-être plus facile de partir si on continue à développer ce réseau et que d'autres réseaux, que ça génère d'autres réseaux aussi pour l'aide au retour. Mais pour ça, on a besoin un peu plus de soutien parce que c'est pas évident de s'organiser. Voilà, donc je fais aussi un appel à des entreprises pour nous aider.
Merci, c'est le mot de la fin.